Réplique, Karen Blixen, sa vie, son œuvre, avec Dominique de Saint-Perne et Bruno de Cessol. Devant les productions d'une époque qui est celle du ressentiment, de l'indiscrétion généralisée et du déboulonnage systématique de toute grandeur, un aphorisme de Sioran me revient souvent en mémoire. Il est incroyable que la perspective d'avoir une biographie n'ait fait renoncer personne à avoir une vie. Mais je ne peux pas non plus en rester à cette exclamation mélancolique et cocasse. Car comme le dit très simplement le narrateur du dernier roman de Michel Houellebecq, Soumission, un livre qu'on aime, c'est avant tout un livre dont on aime l'auteur, qu'on a envie de retrouver, avec lequel on a envie de passer ses journées. Et j'ajouterais que cet auteur aimé, ce compagnon diurne ou nocturne, on a tout naturellement envie de mieux le connaître. On est assoiffé de détails le concernant. Ses lieux, ses dieux, ses lectures, ses manies, ses manières, ses passions, tout nous importe, tout nous fascine. Et c'est cette fascination que je vois à l'œuvre dans l'enquête romanesque de Dominique de Saint-Perne, baronne Blixen, et dans le chapitre de son livre « L'international des francs-tireurs » que lui a consacré Bruno de Cessol sous le titre « Karen Blixen, l'honorable lionne du Kenya ». Partons de ce titre justement. Pourquoi, comment, dans quelles circonstances, la fille de Wilhelm Dinesen et d'Ingeborg Westenholz, née le 17 avril 1885 à Rungstelhund, a-t-elle accédé à la dignité d'honorable lionne ? Bruno de Cessol.
Le titre d'honorable lionne est venu d'une lettre que Karen Blixen avait quitté l'Afrique depuis longtemps quand elle a reçu d'un ancien porteur de fusil qui avait été à son service. Une lettre dont la souscription portait « Madame la lionne Blixen ». Et la lettre commençait par cette formule insolite « Très honorable lionne ». Alors pourquoi « Très honorable lionne » ? Il se trouve que Karen Blixen avait passé de nombreuses années en Afrique.
17 ans, je crois.
17 ans. Qu'elle avait chassé dès ses débuts en Afrique et notamment chassé les lions. Sa bravoure et son goût de la chasse lui avaient attiré le respect et l'admiration non seulement de son mari, Roar Blixen, mais aussi de celui qui allait devenir son compagnon, Dennis Finchatten. Elle était admirée pour son goût de la vie aventureuse, son goût des safaris. Et voilà, et donc ceci explique qu'elle avait aussi un côté prédateur, et ça Dominique de Saint-Perne le montre très bien dans son enquête romanesque. Et donc à plusieurs titres, par son courage, par son goût de l'aventure, par son côté prédateur, elle méritait le nom d'honorable lionne.
Dominique de Saint-Perne.
C'est un titre qu'elle a mérité jusqu'au bout de sa vie, parce que honorable lionne, il y a la bravoure, effectivement, face au cataclysme qu'elle a rencontré en Afrique, mais aussi face à la maladie qui l'a rongée, face aux pertes qu'elle a vécues. Il y a aussi le sens de l'honneur dans honorable lionne, et ça, c'est une vertu qu'elle exigeait de tous ses proches, elle-même la respectant. Et il y a aussi cette souveraineté qui émanait d'elle et qui fascinait tout son entourage.
Oui, mais en même temps, vous dites qu'elle aimait la chasse, mais il y a une différence entre le chasseur et le lion. Là, on l'identifie à une lionne. Et il y a, me semble-t-il, dans toute l'œuvre de Karen Blixen, un amour des animaux et de la vie animale. Elle prend ses leçons. Chez les animaux. J'ai lu dans ses essais un article qu'elle a consacré, une conférence, je crois, à la vivisection. Elle était très, très, très opposée à cette pratique. Et dans Ferme africaine, il y a des pages absolument magnifiques sur les animaux qui apparaissent comme une sorte de modèle. Dans ces contrées sauvages et appris à réfréner les mouvements soudains, aucun animal domestique ne peut être aussi immobile et silencieux qu'une bête sauvage. Nous, les gens civilisés, nous ne savons plus rester immobiles. Il nous faut prendre des leçons de silence auprès des animaux sauvages avant que ceux-ci nous accueillent parmi eux. Se déplacer doucement, sans gestes brusques ni bruit, est un art que le chasseur, et surtout le chasseur d'images, doit maîtriser avant tout. Les chasseurs ne peuvent en faire qu'à leur tête. Il leur faut d'abord s'adapter aux teintes du paysage, à ses odeurs et au vent, et suivre le tempo propre à ce grand orchestre. Donc il y a cette idée, en effet, de s'immerger dans ce paysage et, au fond, comme j'ai dit, de prendre des leçons auprès des lionnes. Donc cet aspect-là est très important aussi.
C'est très important dans sa vie et depuis très 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 longtemps, parce que son père lui avait transmis cette leçon-là, d'apprendre des animaux. Son père qui s'est suicidé brutalement, du jour au lendemain, et la veille de sa mort, il a pris sa fille Karen et il lui a expliqué qu'il fallait qu'elle observe les animaux pour comprendre les hommes et qu'il n'y avait rien de plus précieux que la nature. Et ça, elle l'a gardé en elle toujours. Et je crois que tout ça s'est exprimé quand elle est arrivée en Afrique, et où là, finalement, on entre dans les territoires des animaux. On n'est plus tellement dans le territoire des humains. On est en territoire animal.
On est chez eux.
On est chez eux.
On est chez eux, voilà. Mais justement, son père, qui était-il ? Est-ce qu'on peut en parler
Bien sûr, son père était un obliot, on va dire, d'origine suédoise. Et il était homme politique, il était homme de lettres. Et pour fuir un chagrin d'amour, bien avant qu'il n'épouse la mère de Karen, il était allé en Amérique et il avait vécu dans le Wisconsin, dans une tribu indienne. Il avait été trappeur, il avait chassé. Les Indiens l'avaient appelé Boganis, ce qui veut dire noisette. C'est un peu bizarre pour un homme très très fort, mais en fait il avait une fragilité intérieure. Et donc c'était un homme exceptionnel. Et je pense que Karen n'a cessé de créer un lien entre la vie de son père et la sienne. Que ce soit l'aventure ou la maladie également.
Oui, alors justement, il s'est suicidé, elle avait 9 ans ou 10 ans.
Elle avait 10 ans.
Elle avait 10 ans, il s'est pendu.
Il s'est pendu, ce qui pour un officier...
Il s'est pendu parce qu'il se savait atteint de la syphilis.
Alors ça,
c'est ce qu'on dit.
C'est ce que l'on dit, mais ça n'a jamais été prouvé. Et même la famille a encore des doutes, aucun document ne le prouve. Donc on se demande si Karen n'a pas... créer ce lien supplémentaire avec son père, c'était une possibilité, évidemment.
Bruno de Cessol ?
Il se trouve que moi, j'ai lu les lettres de chasse de Boganis, le père de Karen Blixen. J'ai écrit un article sur Boganis, d'ailleurs, dans une revue qui s'appelle Jour de chasse. Et donc, j'ai lu ces lettres de chasse, qui sont des lettres très bien écrites, très intéressantes. Et on sent très bien que Karen Blixen a hérité de son père son goût de la littérature, son goût de la vie sauvage, bien sûr, et son amour de la nature et des animaux. Mais elle a hérité également son caractère et son tempérament. Et elle pensait que la vie de son père se réfléchissait dans la sienne, qu'il y avait une correspondance entre la vie de son père et la sienne. Et tout au long de sa vie, elle a senti cette proximité spirituelle entre son père et elle. Et de son père, elle avait hérité à la fois le goût de l'aventure, le dédain de la respectabilité, et également, je dirais, une philosophie nietzschéenne de l'existence. Une sorte de radicalisme aristocratique, le goût du danger, l'admiration pour les hommes qui savent prendre leurs responsabilités. Et tout cela l'a fortement marqué. Et je pense qu'elle a essayé ensuite, dans Denise Finch-Hatton, elle retrouvait quelque chose également du tempérament et du caractère de son père.
En même temps, il y a chez elle, me semble-t-il, et je m'y arrête encore un instant, un amour et même une infinie compassion pour les animaux. Et la compassion n'est pas un trait particulièrement nietzschéen.
Alors, oui, d'abord, là-dessus, il y a une autre phrase de Karen Blixen que j'ai citée en exergue d'un de mes livres, qui est une phrase magnifique, à quelqu'un, un journaliste américain, qui lui demandait comment elle avait pu chasser en Afrique, et comment elle avait éprouvé du plaisir à chasser. Elle avait fait cette réponse parfaitement virile et très nietzschéenne, en disant « Celui qui peut voir un beau cheval sans avoir envie de le monter, celui qui peut voir un beau gibier sans avoir envie de se l'approprier, celui qui peut voir une belle femme sans avoir envie de la posséder, celui-là n'est pas digne d'être un homme. »
Cette description qu'elle fait de la girafe au début de Ferme africaine, c'est des lignes absolument magnifiques. J'ai maintes fois vu des girafes arpenter la plaine avec leur grâce incomparable, quasi végétative, comme s'il ne s'agissait pas d'un troupeau d'animaux, mais d'une famille de rares fleurs colossales, tachetées et montées sur de hautes tiges. aller en Afrique, dans un parc national, et voir les girafes avec en tête cette phrase de Karen Blixen, ça vous donne un autre regard, ça vous donne la clé du monde sensible. Et puis, et en même temps, un peu plus loin, elle part, elle raconte, enfin, elle voit des girafes qu'on emporte, qu'on va transporter vers Hambourg, où elles sont exposées dans un zoo. Et c'est une image absolument terrible. C'était des bêtes nobles, fières et innocentes, qui arpentaient doucement la plaine. Elles ignoraient tout de la captivité, du froid, de la puanteur, de la fumée, de la gale et de l'ennui terrifiant qui va de pair avec un monde où il ne se passe rien. Bientôt, des troupes de badauds portant des vêtements sombres, raides et malodorants, viendront par des rues battues par le vent et la pluie, glacées, pour regarder les girafes et se réjouir de la supériorité de l'homme sur le monde animal muet. Ils vont se moquer des girafes et de leurs longs cou fins. Ils vont les montrer du doigt, tandis que les têtes gracieuses aux yeux patients et couleur de fumée se pencheront au-dessus des stalles de la ménagerie. Au cours des longues années à venir, les girafes rêveront-elles jamais de leur pays perdu ? Il y a quand même, c'est un texte absolument magnifique, mais c'est un réquisitoire contre l'imbécile cruauté touristique de l'humanité vis-à-vis du monde animal.
Oui, mais d'ailleurs, elle en souffrait beaucoup en Afrique, parce qu'elle était arrivée à l'époque des grands pionniers blancs qui respectaient et les Noirs et la nature. Et elle a vu l'Afrique se transformer. Elle a vu ces collines du Ngong qui dominaient sa maison envahies pendant le week-end par des boutiquiers indiens de Nairobi sur leurs mobilettes et qui venaient abattre tout ce qui bougeait. Elle a vu cette transformation. Elle en était... en même temps, elle-même, au début, elle a quand même écrit 100 cartouches pour abattre 27 bêtes, c'est mon record. Donc elle tirait un peu sur tout ce qui bougeait, elle aussi, au départ. Et puis un jour, elle a compris, elle n'a plus chassé que pour nourrir ses squatters.
Mais oui, il y a tout de même chez elle, dans ses lettres, notamment à son frère Thomas Dinesen, quand elle arrive en Afrique, il y a des descriptions de ses safaris qui sont absolument prodigieuses. Et moi, je trouve qu'il y a, par certains côtés, un lien assez fort entre ce qu'elle a écrit sur la chasse et sur l'Afrique et ce qu'a écrit Hemingway. Et là, il ne faut pas non plus l'idéaliser non plus comme une sorte de protectrice des animaux. Elle a aimé la chasse, elle a aimé la prédation, mais probablement, ce qu'elle aimait dans la chasse, et pour reprendre le mot de Pascal, ce qu'elle aimait, c'était plus la traque que la prise. Et c'est ce qu'elle a aimé toute sa vie. Mais il y a des passages, elle décrit un safari comme, c'est comme boire une bouteille de champagne sans fin. Et toutes ces descriptions, il se trouve que j'ai chassé en Afrique, moi, pas tout à fait sur les lieux où elle-même a chassé, au Kenya, parce que le Kenya, la chasse y est interdite. J'ai chassé au Tanganyika, l'actuelle Tanzanie, j'ai chassé au Mozambique, et j'ai retrouvé effectivement les sensations qu'elle-même décrit admirablement bien, peut-être aussi bien qu'Hemingway, peut-être si ce n'est mieux même.
D'ailleurs, Hemingway, lorsqu'il a reçu le prix Nobel, je crois en 1954, a dit qu'il regrettait que ce prix n'ait pas été décerné à Karen Blixen, Isaac Dinesen, puisque c'était son nom de plume. Donc il y avait un lien aussi d'admiration. Je ne sais pas s'il était réciproque, en tout cas, entre Hemingway et Karen Blixen. Mais alors, restons-en justement à cette vision de l'Afrique. En effet, elle aimait la chasse et elle aimait les animaux. Mais aussi, elle aimait... Les gens, on n'aime pas les gens, mais elle aimait les Kikuyu, elle admirait les Maasai, peuple de guerriers, qui pouvaient être extrêmement violents, ou qui l'avaient été, mais elle a vu cette Afrique, si vous voulez, entrer en contact avec la civilisation occidentale, et elle a vu les résultats absolument terribles de cette rencontre. Elle en a beaucoup souffert, elle en a parlé. Alors, comment pouvez-vous décrire cette attitude de Karen Blixen ? On l'a accusée, par exemple, d'être pro-native.
Oui, ce dont elle était très fière.
De défendre les indigènes contre une colonisation aveugle et arrogante.
C'est-à-dire qu'à son arrivée, elle a vu déjà la réserve Maasai, les Maasai qui traversent l'Afrique orientale. Elle a vu la réserve se réduire parce que les gouvernements britanniques ont décidé ainsi. Donc ce peuple nomade commençait à se sédentariser. Elle a le code des blancs ne s'adaptait pas du tout aux noirs, et elle a vu les Kikuyu, enfin certaines tribus, commencer à s'éteindre parce qu'ils n'avaient plus le droit d'aller enlever les femmes d'autres tribus comme ils le faisaient depuis des siècles, et donc de se reproduire. Et donc elle a vu tout ça changer, et elle en était, je crois que ça a été un des gros regrets de sa vie, d'avoir aussi, malgré tout, participer à ça, parce qu'elle était quand même un colon, il ne faut pas l'oublier, mais avec une vision et une compréhension de la culture noire qui était un peu comme pour les... comment vous dire ? De toute façon, dès le départ, il y avait en elle un paganisme qui ne collait pas du tout avec la mentalité scandinave ou britannique. Donc elle était très proche de... Elle pouvait comprendre ce qui n'était pas dit. Vous voyez, il y avait ces choses-là. Et il y avait un respect mutuel entre elle et les Noirs.
Oui, je crois ce qu'elle aimait dans l'Afrique, c'était l'authenticité. Quand elle est arrivée, le territoire était encore quasiment, presque encore vierge. Mmh. Elle le décrit très bien dans ses lettres, notamment à son frère. Elle a aimé l'authenticité de ce pays, elle a aimé la fierté et l'authenticité des populations noires qu'elle fréquentait. Elle n'avait pas, contrairement aux Britanniques, des préjugés de race qu'avaient ceux-ci envers les populations indigènes. Et ça, je crois aussi que c'est ce qu'elle tenait aussi de son père, qui avait été familier des Indiens en Amérique latine, des Chippewa et autres. Et c'est ce qu'elle a aimé dans ce pays. Et elle a vu petit à petit cette sauvagerie disparaître, cette wilderness disparaître devant la montée de la civilisation. Elle-même y a un peu participé, parce que sa plantation de café, c'était un modèle, effectivement, d'exploitation coloniale. Mais elle avait conscience de cela. Et je pense qu'elle a, effectivement, peut-être ce sentiment de culpabilité qu'elle avait, sentiment de culpabilité qui s'est exacerbé au moment où elle a dû quitter l'Afrique pour regagner. Elle a tout fait pour essayer de recaser ses squatters, enfin, c'est les Noirs qui travaillaient pour elle. Elle a obtenu, d'ailleurs, gain de cause, d'ailleurs. Voilà.
C'est exceptionnel.
Mais il y a ce sentiment ambivalent chez elle, à la fois d'admiration et de fraternité avec les populations indigènes, et en même temps un sentiment de culpabilité parce qu'elles contribuaient aussi, grâce au progrès de la civilisation, à leur faire perdre leur authenticité.
Vous avez parlé, Denis Saint-Pern, de paganisme. Ah oui. Il me semble aussi qu'il y a autre chose en jeu qui peut être un certain aristocratisme. Je pense à ce que Karen Blixen écrit de Berkeley Cole, et surtout, nous allons bien sûr en parler, de Denise Finch Hatton, l'amour de sa vie. Elle dit que l'un et l'autre s'en sentaient comme des réprouvés. Pourtant, ils n'étaient rejetés ni par la société ni d'aucun groupe. Ils n'avaient été bannis d'aucun pays. Le temps s'en était chargé. Ils n'appartenaient pas à leur siècle. Aucune autre nation que l'Angleterre n'aurait pu les produire, mais ils étaient des manifestations d'un atavisme. Ils appartenaient à une Angleterre ancienne qui n'existait plus. Ils n'avaient ni chez soi ni foyer à notre époque. Il leur fallait errer d'un lieu à l'autre, et leur pérégrination les avait amenés à la ferme. Et il y avait, dit-elle, une affixation immédiate entre les indigènes et Berkeley et Denis. Et ça l'a conduit à se demander si les blancs du passé, de n'importe quel passé, n'auraient pas mieux compris les races de couleurs que nous en notre âge de mécanique. Et elle termine par cette phrase: « Quand la première machine à vapeur a été mise en marche, les chemins des différentes races se sont séparés et ne se sont jamais rejoints depuis. » C'est pour ça que je parle. On a l'impression que ce régime de l'être ensemble de l'aristocratie, eh bien, correspond peut-être davantage à ce qu'elle voyait dans le monde indigène que la mécanique et la démocratie, d'une certaine manière, dont la civilisation est porteuse. Dominique Saint-Pern.
Oui, elle disait des Somalis que c'était des grandes d'Espagne. Elle trouvait, justement, on revient encore à toujours un sens de l'honneur. C'est très important. Et ça, elle l'a trouvé chez les Africains, notamment les Maasai et les Somalis. Et effectivement, elle est arrivée, là vous disiez tout à l'heure, alors je dérive un peu, mais vous disiez que... Moi, ce qui me frappe dans la vie de Karen Blixen, c'est qu'elle arrive, elle est toujours à la lisière entre un monde qui est en train de disparaître et un autre qui est en train de naître. Hein. Que ce soit en Afrique, là où l'Afrique... originelle et celle des grands pionniers buants est en train de disparaître, et quand elle retournera plus tard au Danemark, où elle a vécu un mode de vie aristocratique qui en fait était une illusion. parce que c'était... Elle est toujours dans cette, à cette lisière, donc elle l'aperçoit très 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 bien. Et Dennis Finchatton et Berkeley Cole, effectivement, étaient probablement les derniers fantômes d'une, d'une culture.
Une culture elle-même révolue.
Voilà.
Bruno de Sessol.
Oui, je crois qu'elle trouvait effectivement... Entre les... En fait, elle aimait les outlaws, elle aimait elle aimait les rebelles, elle n'aimait pas les normes bourgeoises qu'elle a rejetées toute sa vie, y commencer dans sa propre famille. Et ce qu'elle admirait chez les Anglais qu'elle a pu fréquenter, qui étaient en fait des rejetons effectivement d'une aristocratie, mais qui s'étaient écartés de cette aristocratie, et qui étaient des hommes totalement indépendants, libres et aventureux. Et elle retrouvait cette aristocratie chez les Noirs. En fait, il y a une équivalence implicite dans ce qu'elle écrit entre l'aristocratie des Noirs et l'aristocratie de ces Anglais un peu réprouvés ou exilés de l'intérieur par rapport à leur époque. Il y a aussi quelque chose qui est... Je ne sais pas si elle a connu Knut Hamsun, et moi je trouve une très forte proximité entre certains romans de Knut Hamsun et ce qu'elle a écrit elle-même. Je pense à Pan, par exemple, le grand roman de Knut Hamsun paru dans les années 1890, et cette exaltation de la vie sauvage, cette exaltation de l'aristocratie terrienne, on la retrouve aussi chez Hamsun. Je ne sais pas si... Est-ce qu'elle a connu Hamsun ? Est-ce qu'elle a lu Hamsun ?
Je ne crois pas. Non. Ah oui, ouais. Lu, oui, bien sûr. Oui, oui,
lu, oui.
Oui, 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 oui.
Alors maintenant, parlons peut-être de Finchatton, justement. Mm-hmm. Qu'a représenté cette rencontre pour elle ? Et surtout, cette rencontre a-t-elle eu un rôle dans sa décision de devenir écrivain ? Parce qu'il faut... La vie de Karen Blixen est passionnante, mais elle est d'autant plus passionnante qu'elle a pu, si vous voulez, rendre possible une œuvre comme la sienne, une œuvre unique, une œuvre très singulière.
Alors, Dennis Finchatton était un aristocrate d'une très grande famille aristocratique britannique. Il avait fait Eton, il avait fait Oxford, c'était un lettré, un érudit même. Il adorait la poésie. Elle a rencontré son âme sœur. C'est-à-dire que Karen a été éduquée par des gouvernantes, jamais d'école. Donc, une éducation très, très exigeante et en même temps très fantaisiste. Et Dennis lui a appris le latin, lui a appris l'astronomie. Ils discutaient des nuits et des nuits de poésie. Ils débattaient de tout. D'abord parce que tous les gens qui vivent en Afrique, qui sont un peu coupés du monde et tout, saisissent le moindre propos, mais n'importe quoi. Des choses y compris très, très quotidiennes et donnaient lieu à de très, très grandes discussions.
Mais en même temps, quand je dis qu'il a eu un rôle... peut-être dans sa décision de devenir écrivain, je pense à ce qu'elle a écrit, cette confidence qu'elle a faite à son frère Thomas d'Innesen. Je trouve ça magnifique. La seule façon d'empêcher la flamme de s'éteindre avec le temps est l'inévitable répétition, parce qu'on se connaît trop bien l'un l'autre et qu'on a déjà entendu toutes les histoires, c'était de devenir inépuisable et d'en composer toujours de nouvelles.
Voilà. Donc,
et elle dit dans Fermat Weekend que Finchatton avait cet art extraordinaire, il aimait écouter les histoires. Et c'était un homme insaisissable, ouais. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas être à demeure dans la ferme, ni nulle part d'ailleurs. Il était nomade, il organisait des safaris, notamment pour le prince de Galles, etc. Et pour le garder avec elle, elle lui racontait des histoires. Elle est devenue sa Scheherazade.
Voilà, exactement. Parce qu'elle avait en elle ce don du conteur. Elle était une magnifique conteuse. Et pendant les absences de Dennis, qui pouvaient durer un an parfois, elle mourait d'ennui. Et alors, donc, elle préparait son retour en écrivant des contes, déjà, dans un premier temps. Il ne l'a jamais poussé à écrire véritablement. C'est son frère, en réalité, à son retour. Parce qu'elle avait ce don qui aurait été une énorme perte si elle ne l'avait pas exploité. Et c'était son seul moyen de gagner sa vie plus tard. Voilà. Mais effectivement, pour retenir Dennis, pour qu'il ne s'éloigne pas, pour qu'il revienne, elle écrivait des contes. Et c'était, sa Scheherazade, ça c'est très clair.
Oui, non, c'est ça.
Karen Blixen avait commencé à écrire lorsqu'elle était adolescente. Et puis, elle s'est rendue compte que ses tentatives d'écriture n'avaient pas de succès. Elle s'est tournée vers la peinture à ce moment-là. Elle a suivi des cours à Paris. Et elle a peint, d'ailleurs, jusqu'à la fin de vie, de très beaux portraits.
Une artiste, véritablement.
Il y en a très beaux portraits dans sa maison, qui sont très, très beaux.
Et donc, elle avait cette vocation pour l'écriture, je pense, ancrée dès l'adolescence. À mon avis, le fait qu'elle n'ait jamais eu d'enfant... a été peut-être une compensation à cette absence de postérité à quoi elle était condamnée. Et quant à sa relation avec Dennis Finchatton, elle est très curieuse. Elle a fasciné les colons anglais de l'époque au Kenya, parce qu'on se demandait Quel était ce... Il y avait un couple à trois, parce que Brahe Blixen ont elle été divorcées, mais elle était restée très amie avec son mari.
Ah oui, et il celui-ci, un peu.
Et celui-ci était également très très lié à Denis Finchatton, qui l'a utilisé comme second dans un certain nombre de safaris qu'il a conduit. Et en fait, c'est un amour très, très étrange, parce qu'elle-même était atteinte de la syphilis qu'elle avait héritée de son mari. C'est le cadeau de noces de son mari, c'était la syphilis qu'il lui a inoculée. Donc, elle était condamnée à ne pas faire l'amour.
Elle ne pouvait plus faire l'amour.
Non. Et Denis Finchatton lui-même... Bon, j'ai lu une biographie de Finchatton dont il semble bien que Finchatton était au fond homosexuel, en fait.
Bisexuel, moi, je dirais.
Bisexuel ou homosexuel.
Oui, je pense.
D'après la biographie anglaise que j'ai lue, il était plutôt homosexuel.
Oui, voilà. Mais je crois, oui.
Et donc, le lien qu'il y avait entre eux n'était pas un lien physique, un lien charnel, c'était un lien spirituel. C'est ce que Aldous Huxley appelait « the loves of parallels ». Et elle était persuadée que l'amour qui les liait était plus fort qu'un amour physique, c'était partager les mêmes idéaux, aller dans le même sens dans l'existence, mais toujours en parallèle. Et en fait, la vie qu'elle a eue avec lui était une vie peut-être de fusion spirituelle, mais une vie parallèle sur le plan du quotidien, parce qu'il n'était rarement là.
Ils ont eu des relations sexuelles puisqu'elle est tombée enceinte à deux reprises, et on a la lettre, on a le télégramme, c'est-à-dire qu'il était à Londres et elle a envoyé un télégramme à Denis Finchatton,
chiffré.
J'attends Daniel. Et Daniel, c'était le nom de code pour... Et il a dit, il n'a pas voulu, il lui a pas demandé de faire le nécessaire, il a dit, repousse l'arrivée de Daniel.
Oui, et donc elle a fait le nécessaire.
Mais alors,
parlons une seconde de son mari. En effet, il lui a inoculé la syphilis, terrible cadeau de noces, une maladie qui l'accompagnera toute sa vie, qui la fera énormément souffrir. Mmh. Elle pesait 35 kilos à peu près au moment de sa mort. Elle a dû subir toutes sortes d'interventions, d'opérations extraordinairement douloureuses. Donc vous me dites qu'elle ne lui en voulait pas particulièrement. Et en même temps...
Elle lui en voulait, mais
quand même.
Elle a une bonne relation avec lui.
En Afrique. Mais quand elle est rentrée, elle a demandé à sa famille de ne plus jamais prononcer le nom de Brahe devant elle. Vraiment, elle lui en a voulu de la tragédie de sa vie. Il était pour elle le responsable de la tragédie de sa vie.
Ah, quand même.
Ne pas avoir d'enfant, ne pas avoir une vie sexuelle normale. À un âge où elle aurait pu être une femme épanouie, tout est mort du jour au lendemain. Voilà. Donc ça, elle lui en voulait énormément.
Et surtout, elle l'avait épousé... Alors qu'elle n'était pas amoureuse de lui, mais de son frère aîné.
C'était trop simple.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement?
C'est-à-dire que Karen avait une famille aristocratique suédoise du côté de son père. Et elle avait deux cousins, pas des cousins germains, Hans et Brahe Blixen, qui étaient jumeaux. Et elle est tombée folle amoureuse de Hans, qui était un homme à qui tout réussissait. Il était un cavalier émérite, il fut aussi un pilote, enfin tout. Il était entouré de jolies filles. C'était le noceur aristocrate dans toute sa splendeur. Et elle était amoureuse folle de lui, mais il n'a jamais, jamais jeté un regard à Karen Blixen. Donc, elle a pensé se suicider. Elle n'a jamais parlé de cet amour à quiconque. Elle l'a gardé pour elle. Elle avait 23 ans et elle a pensé se suicider. Et puis, elle s'est rendue compte que c'était ridicule de se suicider pour un homme qui ne savait même pas que vous existiez. Donc, elle est partie à Paris et Brahe Blixen, le frère jumeau, l'a demandé en mariage. Trois fois de suite. Et à la troisième fois, elle a dit oui. Pourquoi elle a dit oui? Parce qu'il lui apportait le titre de baronne. Elle apportait l'argent. Il apportait le titre de baronne. Mais aussi, elle avait senti en lui ce besoin de l'ailleurs. C'était un aventurier, Brahe. Alors, il dirigeait une ferme laitière en Suède, donc il n'était pas question d'épouser Karen et de la lui faire vivre là. Et donc, ils sont partis ensemble en Afrique sur les conseils d'un cousin. En fait, il est parti un an plus tôt. Et pour acheter une ferme laitière, il a acheté une ferme, une plantation de café, là où le café ne pouvait pas pousser très bien. Enfin, il était inconséquent, Brahe. Hein, voilà.
Et infidèle aussi.
Infidèle, parce que pendant cette année où il était parti en éclaireur, il s'était beaucoup, beaucoup intéressé aux femmes Maasai. Et c'est là qu'il a attrapé la syphilis. Il était un porteur sain, donc il ne savait pas. Et quelques mois après son mariage, parce que Karen s'est mariée le jour même de son arrivée en Afrique, elle a compris qu'elle avait la syphilis.
Et lui, il est mort quand
Il est mort des années plus tard.
Dans les années 60.
Assez violemment. Et j'ai rencontré une femme l'autre jour qui a fondu sur moi à la suite d'une conférence à la Maison du Danemark et qui m'a dit « Je suis la fille de l'homme qui a tué Bror Blixen ». Ça fait un choc.
Et c'est-à-dire qu'il a été tué
Non, c'est-à-dire c'est un accident.
C'est un accident.
Et elle a dit « Au fond, il est mort ivre et en riant ». C'est Bror Blixen, voilà. C'est tout
et c'était en Afrique ou en Europe?
Au Danemark.
Au Danemark. Mmh. Et ils ne se sont pas revus après
non,
le retour
non,
de...
Non. Elle lui en voulait beaucoup, d'autant qu'il a sorti ses mémoires d'Afrique au moment où elle sortait la ferme africaine. Donc elle a pris comme un acte de haute trahison. Et là, c'était le sort de Bror était réglé.
Alors, nous allons quitter l'Afrique. Mais avant de quitter l'Afrique, je voudrais lire, si vous voulez bien, encore un extrait, parce que j'ai du mal à me séparer de la ferme africaine. Le passage consacré aux bœufs. Je ne sais pas si vous en souvenez. « Comme tout le monde, dans une nation civilisée, éprouve mauvaise conscience à l'égard des chômeurs et se sent gêné en pensant à eux, en Afrique, on a mauvaise conscience et un pincement au cœur lorsque l'on songe aux bœufs. À l'égard des bœufs de la ferme, je pensais ce que les rois doivent penser des chômeurs. Vous êtes moi et je suis vous. » Alors, elle part du très lourd tribut que les bœufs ont payé à la marche en avant de la civilisation européenne. Et je lis encore un paragraphe. « Il est étrange de voir ce que nous avons fait aux bœufs. Le taureau est dans un état de fureur constante. Il roule les yeux, frappe le sol et fonce sur tout ce qui apparaît dans son champ de vision. Mais il possède une vie propre. Le feu jaillit de ses naseaux et la vie de ses reins. Ses jours sont marqués par ses exigences considérables et leur satisfaction. De tout cela, nous avons privé les bœufs et en échange, nous avons mis la main sur leur existence. Les bœufs nous accompagnent dans notre quotidien, ils traînent tout le temps de lourdes charges, ils sont devenus des êtres sans histoire, pliés à notre service. Ils ont des yeux humides et clairs, sous des cils touffus, des mufles doux et des oreilles soyeuses. Ils sont patients et lents dans tout ce qu'ils font et l'on dirait parfois qu'ils réfléchissent. » Je trouve ça vraiment très beau. Et encore une fois, ça en dit long quand même sur le rapport très intime qu'elle pouvait avoir avec les animaux, les nobles et les plébéiens, en quelque sorte, du lion
ce qu'elle aimait,
en passant par la girafe.
Ce qu'elle aimait, c'était la vitalité animale. Et je pense aussi que ce qui a pu aussi la conduire à épouser Bror Blixen, c'est qu'ils avaient tous les deux un tempérament très dionysiaque. Et lui avait une vitalité animale qui s'exprimait aussi bien dans la sexualité que dans la chasse, que dans les beuveries, etc. Ouais. Et c'est ce qu'elle a elle-même ressentait cela par certains côtés. Et son amour également pour les animaux et pour certains hommes qui reproduisaient en eux les qualités qu'elle admirait chez les animaux.
Mais une grande pitié pour ceux des animaux que les hommes avaient privés de cet élan vital, comme les bœufs précisément. Mais alors, voilà, elle revient après 17 années passées en Afrique, au Danemark. Sa ferme est ruinée. Elle doit abandonner cette plantation de café. Et quand elle décide d'écrire, elle choisit le conte. Ce qui est tout de même un choix tout à fait extraordinaire. Elle n'écrit pas de roman. Il y a la ferme africaine, bien sûr, ce magnifique témoignage, comme je l'ai montré, extraordinairement fort et poétique. Mais que penser, comment envisager, comment comprendre ce choix par Karen Blixen d'une forme, disons, abandonnée par la grande littérature, le conte?
D'abord, elle admirait énormément Hans Christian Andersen, il faut le savoir. Ça, vraiment, elle le lisait beaucoup, vraiment énormément. Et elle pensait que le monde avait besoin de merveilleux. Donc, ça l'a toujours dirigée dans ses écrits. Et c'est vrai que elle contait, elle était une conteuse orale en Afrique. Elle avait aussi pris ça des Africains. Elle connaissait très bien le phrasé, les pauses qu'il fallait faire, les effets dramatiques très subtils. Voilà. Et c'est ce qu'elle savait faire. Donc, elle a écrit ce qu'elle savait faire. Mais elle a découvert que la phrase écrite était beaucoup plus terne et plate que la phrase dite, parce que le conte qu'elle disait était évoluait en fonction de la réaction des spectateurs, des auditeurs. Elle le faisait chatoyer comme ça. Donc là, c'était vraiment un travail très différent. Mais c'est vrai que dans toute l'œuvre, moi je pense aussi quand même un petit peu, même la ferme africaine, dans toute l'œuvre de Karen, c'est la chose dite qui compte. La chose qui, c'est pas le propos, c'est pas l'ambiance, c'est le cœur de son travail, c'est la chose qui peut être dite, comme on dit les contes d'Ali Baba et les 40 voleurs, mais comme on ne peut pas dire Anna Karenine. Donc, vous voyez, ce n'est pas... vous comprenez ce que je veux dire?
C'est-à-dire, c'est le passage par l'oralité.
Voilà, voilà.
Oui, c'est ça. Pourquoi
je pense qu'il y a peut-être autre chose. Il y avait chez elle le refus de la prose du réel. Et ça, c'est très important. Et même la ferme africaine n'est pas un témoignage réellement réaliste. C'est transposé, c'est sublimé. Elle refusait, au fond, la trivialité du monde. Et je pense que c'est ce qu'elle a exprimé dans sa littérature. Parce que le monde avait été particulièrement cruel envers elle, qu'elle a subi ce qu'elle appelait en Swahili les choris, c'est-à-dire tous les tracas, les importunités de l'existence, elle avait besoin de se réfugier dans un monde de rêves, de merveilleux, de fantastiques. Je pense que moi, je rapprocherais assez ces contes gothiques ou ces contes d'hiver des contes d'Hoffmann ou de certaines nouvelles de Thomas de Quincey. Il y a quelque chose d'assez proche, je trouve, entre ce type de littérature. Elle n'aurait jamais pu écrire un roman réaliste à la Balzac, sûrement, ou à la Simenon.
Elle dit d'ailleurs, elle a cette phrase, je ne m'intéresse pas aux questions sociales ni à la théorie freudienne, mais la narratrice des Mille et Une Nuits a elle aussi négligé les questions sociales, et c'est sans aucun doute la raison pour laquelle les Arabes se rassemblent encore aujourd'hui sur les places publiques pour entendre ces histoires. Ouais. Alors, est-ce que les Arabes se rassemblent aujourd'hui sur les places publiques pour entendre les Mille et Une Nuits? C'est une question dont nous débattrons une autre fois.
Il y avait aussi, chez elle, on a parlé de l'oralité, effectivement, des contes qu'elle entendait, les récits des Noirs, etc. Mais il y a aussi ces ascendances vikings qui sont très importantes.
Oui,
et un certain nombre de contes font référence à tout cet univers de la mythologie nordique, ancienne, dont elle se sentait héritière, en quelque sorte, et qu'elle a reproduit.
Vous avez dit qu'elle aimait beaucoup Andersen, Dominique Saint-Pern. Je ne le savais pas, mais moi, j'ai, en préparant l'émission, je me suis spontanément reporté à Andersen. J'ai relu certains contes qui sont absolument extraordinaires. Qui sont d'une profondeur, c'est-à-dire qui vous accompagnent, qui disent quelque chose de la vie. Bien entendu, les habits neufs de l'empereur, le roi est nu quand même. C'est une phrase qui peut vous accompagner tout le temps, qui donne à penser sur notre époque. Et puis aussi cet extraordinaire conte de deux pages, qui est beau comme un poème en prose et d'une profondeur inouïe, La princesse au petit pois.
C'est absolument
merveilleux. Ou La théière. Donc, mais en même temps, est-ce que il y a, vous dites le merveilleux, mais c'est pas, il y a une grande mélancolie dans ces contes. Ce sont souvent des histoires qui se terminent très mal.
Ce qui est extraordinaire dans ces contes, ce sont des contes sans moralité.
Oui.
Or, généralement, un conte a une morale. Or, tous les contes de Karen Blixen sont des contes sans moralité. Mmh. Et là, il y a une dimension chez elle qui est importante. C'est un écrivain totalement païen. Il n'y a aucune influence chrétienne chez elle. Les sentiments chrétiens de compassion, de culpabilité, etc., ne l'effleurent pas. En ce sens, elle est très nietzschéenne.
Elle est vraiment nietzschéenne. Oui. Vous y tenez.
Oui, j'y tiens à la dimension nietzschéenne de Karen Blixen. Et ce sont des contes sans moralité aucune.
Elle est même assez cruelle avec ses personnages, bien sûr. Il n'y a pas de compassion, il n'y a pas... Non, il n'y a pas de moralité. Souvent, les gens étaient déroutés et lui demandaient « Mais que veut dire ce conte ? Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Mais elle dit « Je ne dis que ce que j'ai écrit. » Voilà. Et donc, elle... non, elle est effectivement, elle est, comme vous le dites, elle est assez païenne pour tout ça.
Elle est païenne et en même temps... Hannah Arendt a consacré dans Vie politique un texte très beau, très profond à Karen Blixen, Isaac Dinesen, puisque c'était son nom de plume. Elle avait pris un nom de plume masculin. Isaac, celui qui rit.
Celui qui rit, en effet.
L'une de ses maximes, d'ailleurs, était « Dieu aime la plaisanterie ».
Oui.
Isaac Dinesen, Karen Blixen. Il me semble que un des thèmes qui parcourt son œuvre... c'est, comme le dit Hannah Arendt, celui du risque que l'on court à vouloir faire de sa vie une œuvre, à confondre, selon la terminologie d'Arendt, action et fabrication. C'est-à-dire qu'on va pouvoir modeler la réalité selon son choix. non seulement raconter une histoire, mais fabriquer une histoire. C'est précisément le sujet d'une éternelle histoire. Puisque, non, Dominique Saint-Père,
oui, l'éternelle histoire, c'est l'histoire d'un homme très très riche qui épouse une très jeune femme et qui veut justement faire coller un épisode de sa vie à une légende qui court parmi les marins, que se racontent les marins, qui est qu'un soir, un homme vient aborder un marin sur un quai et lui demande de venir chez son maître pour dîner, où lui sera servi un très très bon dîner gastronomique, et aussi il doit faire l'amour à cette jeune femme et lui faire un enfant contre quelques guinées d'or. Voilà, c'est ça le rêve. Donc les marins qui vivent assez misérablement, voilà, c'est une histoire qui les fait rêver, et cet homme dont parle Karen Blixen décide de faire la même chose. Et évidemment, ça ne se passe pas.
Ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire que le marin agit comme il l'espère, mais au moment de recevoir sa récompense, il dit que son histoire n'a strictement rien à voir avec celle qui lui est racontée, et il offre, je crois, un coquillage
voilà.
À cette jeune femme,
voilà.
Au moment de s'en aller. Donc là encore,
les personnages échappent
toujours, et il y a aussi une autre nouvelle qui va dans le même sens, le poète ou les poètes.
Alors là, c'est inouï, pour moi c'est une histoire inouïe. Alors, un conte, à son retour dans les Sept Contes Gothiques, qui est le premier recueil de contes qu'elle écrit à son retour du Danemark en 1932, et elle écrit un conte qui s'appelle Le Poète, c'est-à-dire que ça se passe en Allemagne, et le conseiller Mathiesen, qui est un notable du village, a rencontré un jour Goethe, a discuté avec lui, et il ne s'est jamais remis de cette proximité avec le grand poète. Et donc il lit beaucoup de poésie, et un jour il rencontre un petit clerc de notaire qui écrit lui-même des poètes, et il trouve dans cette poésie une grandeur, et il veut aider ce poète à devenir le grand poète qu'il doit être, donc à accomplir son destin, et pour cela il l'enferme chez lui, enfin il le met dans une cage, et en espérant que le poète grandira comme lui le souhaite. Et puis intervient une jeune femme que le conseiller Mathiesen veut épouser, et il se trouve que le poète tombe amoureux de la jeune femme, découvre qu'il y a une vie à l'extérieur de cette cage, et évidemment, ça se termine tragiquement, parce que la réalité, ce n'est pas la fiction.
Non, ça se termine tragiquement, mais il est tué,
la femme qui tire sur lui lui dit
pour finir, poète.
Poète. Mais ce qui est fou, c'est qu'elle a écrit ce conte en 1932, et en 1948, elle rencontre un jeune poète qui s'appelle Thorkild Bjørnvik,
dont vous parlez beaucoup dans votre livre.
Dont je parle beaucoup parce qu'ils ont passé un pacte écrit ensemble. Et Karen Blixen l'envoûte littéralement, c'est Circé au mieux de sa forme, véritablement. Le jeune homme qui est marié, qui a un enfant, s'installe chez elle. Ils écrivent chacun de leur côté. Ils passent ce pacte et elle lui dit « Si tu m'es loyal, entièrement loyal, je te protégerai et tu deviendras un très grand poète et nous entrerons ensemble dans la légende littéraire. » Donc c'est ce qu'elle s'efforce de faire, et cela dure à peu près 3 ans. Ils vivent dans une tour d'ivoire, il est coupé du monde, et puis un jour lui se réveille parce que c'est un homme de 33 ans qui a une femme, un enfant, que la vie appelle à l'extérieur, et il tombe amoureux d'une jeune femme, comme dans le conte. C'est exactement le conte. Alors je ne pense pas qu'elle ait eu une prémonition 20 ans plus tôt, je crois qu'elle a vraiment voulu faire plier la réalité et la soumettre aux lois de la fiction.
Oui, voilà, et on a le sentiment, d'ailleurs ce que dit Hannah Arendt, c'est que dès sa jeunesse, elle avait en elle cette tentation de rendre vraie une histoire et d'intervenir dans la vie en suivant un modèle préconçu. Et au lieu d'attendre patiemment l'émergence de l'histoire, et c'est précisément contre cette tentation qu'elle a écrit ses contes, parce que son thème de prédilection, comme l'écrit Bérénice Levet dans ce livre sur Hannah Arendt, où elle parle elle-même de Karen Blixen, c'est justement cette volonté de se rapporter au réel comme une matière à façonner, et assez semblable comme à des pantins dont on actionne les fils, des marionnettes. Donc là, il me semble, Bruno Tessol, qu'il y a quand même une morale, en quelque sorte, il ne faut pas faire ça, mais en même temps, c'est son péché mignon, en quelque sorte. et elle y cède une dernière fois dans sa vie avec cet homme dont vous dites qu'ils ont scellé ensemble un pacte, Bruno de Cessol.
Je pense qu'il y avait ce côté, cet idéalisme exacerbé qui était sa marque de fabrique. Et au fond, tout se passe comme si elle avait voulu réaliser ce que l'aphorisme d'Oscar Wilde, c'est la vie qui imite l'art et non pas l'inverse. Mmh. Et rien n'est plus vrai que dans la relation très étrange qui l'unit à ce jeune poète danois. C'est Pygmalion à l'envers, en quelque sorte. Il y a quelque chose aussi quand même de très manipulateur là-dedans. Et la façon dont elle traite la femme de ce malheureux est quand même extraordinairement cruelle.
Elle souhaite sa mort.
Elle souhaite sa mort, exactement. Mmh. Comment elle essaye de défaire des couples pour en reformer d'autres.
Qui lui conviennent.
Qui lui conviennent. Mmh. Là, ce n'est pas un aspect très sympathique qu'elle révèle dans cette partie de sa vie. Mmh. C'est très différent de ce qu'elle montre dans La ferme africaine, je trouve.
Elle a composé... Oui, mais elle n'a eu de cesse de composer sa légende, déjà à travers La ferme africaine, parce qu'on est quand même très idéalisé, même son rôle est idéalisé, sa relation avec Denis l'est aussi. Et donc, elle s'est composé un personnage quand elle est rentrée du Danemark, le personnage de la conteuse, y compris physiquement. Elle s'est créé un masque. Mmh. C'est très, très étrange. Elle n'a de cesse d'alimenter sa légende et elle veut que les choses se déroulent comme elle l'a conçue.
Alors c'est tout à fait extraordinaire autrement. Ce que vous dites. Elle veut composer sa légende et elle est prête à un certain nombre de manipulations pour ce faire. Et en même temps, elle écrit toute une série de contes qui s'inscrivent en faux contre une telle tentation, qui la remettent en cause et qui montrent à quelles extrémités elle peut conduire. Et là encore, c'est Arendt qui donne, me semble-t-il, la clé de ce genre d'attitude. Elle rappelle, dans La condition de l'homme moderne, que la liberté nous a été donnée dans la condition de non-souveraineté. Nous sommes libres, mais nous ne sommes pas souverains, car aucun homme ne peut être souverain. La terre n'est pas habitée par un homme, mais par les hommes. Il semble, elle, qu'à plusieurs reprises dans son existence, elle ait voulu cette souveraineté. Et que, évidemment, la vie l'a détrompée, elle a écrit sur cela, mais elle n'a pas pu faire taire cette volonté en elle, si j'ai bien compris.
C'était une partie d'elle-même. Mais en même temps, elle avait vécu tellement de pertes depuis l'enfance, ça a commencé avec son père. Elle a souvent été dépossédée de ce qu'elle aimait, et puis même dépossédée d'elle-même à son retour d'Afrique.
Mais dépossédée de Finchatton aussi, donc il faut rappeler quand même qu'il est mort dans un accident.
Dans un crash d'avion, son biplan, il était aux manettes, mais il s'est écrasé. Je dirais que plus que Finchatton, elle a perdu l'Afrique. Et donc, elle disait... Je suis restée là-bas. Mon cœur est resté enterré dans les montagnes du Ngong. Je suis morte, voilà. Et donc elle s'est recréée ça. Et elle avait besoin d'avoir une emprise sur les êtres et sur les choses. Voilà, c'est ça. Elle a toujours été possessive, extrêmement possessive. Et ça, sa famille le dit encore très bien. Ils étaient assez horrifiés.
Et jalouse
par tout ça. Et jalouse, volcanique.
Alors, maintenant, nous arrivons bientôt au terme de notre émission. Je disais en commençant que lire un auteur, c'est aimer cet auteur, citant Houellebecq. Je vous poserai donc la question définitive. Si vous aimez Karen Blixen, pourquoi ? Qu'est-ce que vous aimez en elle ? Sa vie, son œuvre, quoi dans sa vie, quoi dans son œuvre ?
Alors, dans le personnage de Karen Blixen, ce que j'aime, c'est que malgré toutes les mésaventures, les deuils, les pertes qu'elle a subies, il y a chez elle un amor fati extraordinaire qui n'a jamais cessé. Et notamment, ce que j'aime chez elle, c'est cet éternel oui à la vie, en dépit de tous les malheurs qui se sont abattus sur elle. Et en tant qu'écrivain, c'est le fait qu'elle est un écrivain en fait sans filiation. Un grand écrivain surgit au fond du néant, de nulle part. On ne lui connaît pas de filiation, il n'y a pas d'écrivain qui l'ait influencé véritablement dans ce qu'elle a écrit, et elle n'a influencé personne après elle. Donc c'est une œuvre qui est comme un diamant unique, qui brille d'un éclat incomparable, mais qui n'a pas d'équivalent, ni dans le passé, ni dans le futur. Voilà pourquoi j'aime Karen Blixen.
Moi, ce que j'aime en elle, en dépit de tout, parce que j'ai, en travaillant sur son personnage, j'ai quand même découvert effectivement cette manipulation. Mais ce que j'aime, en dépit de tout, au milieu de ses malheurs, c'est ce oui à la vie. Elle disait, je suis un diseur de oui. Là, elle empruntait à Nietzsche. Et c'est aussi cette générosité. cette générosité, quand elle sentait un esprit qui hésitait, elle l'aidait à se révéler. Et moi, je trouve ça magnifique. Je trouve qu'elle elle emmenait les gens sur ses ailes. Et ça, je trouve ça
oui,
superbe.
Mais là, vous parlez d'elle, de son caractère, de sa vie, comme si finalement c'était plus important pour vous, qui avait en quelque sorte voisiné avec elle pour cette longue enquête, que son œuvre elle-même.
Ah non, là je parle de la personne, mais je vais parler mais l'œuvre.
D'accord.
Moi, effectivement, ce que j'aime dans l'œuvre, c'est cet univers onirique qui s'affranchit de la réalité du monde réel et qui ne ressemble à rien d'autre que qui est arrivé dans le ciel littéraire qui était un peu gris ils l'ont vu arriver, donc il dit, comme un oiseau de paradis avec des plumes multicolores, les Danois qui vivaient assez d'une manière plutôt austère, et c'était un oiseau de paradis qui parlait de choses extraordinaires, et c'est ce que j'aime, c'est qu'avec elle tout est possible, y compris dans les contes.
Et si vous deviez choisir une œuvre de Karen Blixen, laquelle choisiriez-vous, Bruno de Cessol?
Pour des raisons personnelles, parce que je suis aussi lié à l'Afrique, je dirais que c'est La Ferme africaine, sans doute. Bien que les nombres de contes m'aient beaucoup marqué, j'en aime beaucoup, mais c'est quand même La Ferme africaine.
Évidemment, c'est La Ferme africaine, parce que ça nous parle davantage, c'est beaucoup moins mystérieux que tous ces autres contes. Mais moi, il y a un livre que j'aime énormément, qui s'appelle Les Voies de la Vengeance, et qui est un roman qu'on pourrait qualifier roman de gare, mais qui a eu un succès fou à l'époque, qu'elle a écrit sous un pseudonyme parce qu'elle ne voulait pas qu'on le confonde avec le reste de son œuvre. Et c'est un roman à la Jane Austen, et c'est formidable. Les Voies de la Vengeance.
Je rajouterais, moi, le Festin de Babette.
Voilà.
Très bien. Bien sûr. Vous mettez ma propre contribution. C'est très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Alors, je voudrais rappeler les titres de vos livres. Dominique de Saint-Perne, Baronne Blixen, roman. Ce livre est publié aux éditions Stock, L'International des Francs-Tireurs de Bruno de Cessol, et publié chez un éditeur qui s'appelle L'Éditeur.
Voilà.
Et on y trouve aussi des chapitres sur Hemingway, Jane Austen, Kipling, Leopardi, Orwell, etc. J'ai cité également La condition de l'homme moderne d'Hannah Arendt, Les vies politiques d'Hannah Arendt et Le musée imaginaire d'Hannah Arendt de Bérénice Levay, qui est publié aussi aux éditions Stock. Vous trouverez de toute façon les références bibliographiques sur le site réplique-franceculture.fr où l'émission est téléchargeable un an et réécoutable 1000 jours. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Que veut la Russie ?». Mes invités seront François Stomme et Andrei Gratchev. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Cécile Braque. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeanneney, les religions avec ou sans images, avec Patrick Boucheron.